Drôle d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Vie et écriture est le thème de cette émission. Qui n'a pas dans sa jeunesse ou ensuite écrit, et parfois aussi ensuite brûlé ses écrits? Combien ont dans la dernière partie de leur vie le désir d'écrire, le font effectivement et jusqu'au bout? Pour cette émission, nous avons recueilli beaucoup de témoignages. Ils révèlent que beaucoup ont écrit, laissant, délaissant ou reprenant l'écriture. Pour ceux qui ont repris et ont été jusqu'au bout d'un document, publié ou pas, il y a une profonde satisfaction, une connaissance nouvelle d'eux-mêmes et du monde. Il y a, selon l'un des témoins, une aventure et une exploration qui transforment le regard et la vie. Pourquoi ne pas oser penser que chacun est concerné par l'écriture? En plus, le musicien valorisera la musique, le peintre la peinture, le sculpteur la sculpture, mais en plus d'un art ou plusieurs propres à chacun, n'y a-t-il pas place pour tout à l'écriture? Ainsi, outre les arts quotidiens, rappelons-le, le jardinage, la cuisine et bien d'autres, il y aurait de façon variable pour chacun un art culturel majeur, musique, peinture, sculpture, poésie, et pour tous l'écriture. Mais nous ont dit certains « je ne sais pas écrire ». Est-ce si certain que cela? Nous avons vu des individus se mettre à écrire avec ou sans l'aide de quelqu'un. Nous avons le témoignage d'une personne assistant une femme qui, pour des raisons de maladie grave, ne peut consulter des archives, ouvrir un livre, mais qui rédige un ouvrage. Nous avons rencontré des personnes qui, en cachette, consultent leur écrit, qu'ils revisitent régulièrement. Alors oui, peut-on vivre sans écrire? Écrire pour mieux vivre et plus intensément, vivre pour faire surgir de soi, par l'écriture, un regard, des sensations, une lecture en réserve, souvent étouffée par la vie. Écrire sa vie sur sa vie, c'est vivre avec plus de lucidité et d'éveil sa propre vie. Je vous propose un petit voyage en trois étapes. Tout d'abord, deux entretiens avec des auteurs d'ouvrages sur vie et écriture. Puis ensuite, nous écouterons très brièvement deux extraits de textes parmi tous ceux que nous avons reçus. Et en troisième étape, nous explorerons des citations variées sur vie et écriture, accompagnées comme musique de fond par la Symphonie du Nouveau Monde. La note de synthèse de cette émission, sur le site au pluriel, je vous le rappelle, lié art, culture au pluriel et ensuite education-singulier.com, donc je répète, art au pluriel, culture au pluriel, éducation.com, il y aura une bibliographie de 20 références sélectionnées pour vous. Enfin, au terme de cette émission, nous aurons un témoignage sur la journée du livre gourmand à Brignoles, le samedi 17 mai, que nous n'avons pu diffuser la dernière fois. Mais tout d'abord, deux entretiens. Le premier avec Étienne Godinot, titre de son ouvrage « Écrire ma vie » à la Chronique sociale, une remarquable maison d'édition sur laquelle nous reviendrons. Ce livre comprend des exercices à faire seul ou à plusieurs, ainsi qu'un ensemble de références remarquables. Son auteur, Étienne Godinot, père et grand-père, a travaillé pendant 34 ans dans les ressources humaines et la formation. Écoutons-le. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Michel.
Alors écoutez, je viens de présenter votre livre. J'ai envie de retenir avec vous trois questions. La première, c'est la suivante. Sur le thème « Écrire ma vie », vous avez fait un ouvrage remarquable d'exercice, soit à faire seul, soit à faire à plusieurs. Et vous avez en plus une excellente bibliographie. Quelle est l'histoire de ce livre ?
Eh bien, l'histoire, c'est pas ordinaire, c'est que à l'âge de 58 ans, j'ai eu l'occasion d'être en recherche d'emploi et je me voyais plus à cet âge-là faire les sonnettes des entreprises, des organismes, etc. Et je me suis dit, je vais créer quelque chose. Et je voulais créer quelque chose qui crée du sens et qui crée du lien. Et je me suis dit, en parlant avec des amis et aussi avec une accompagnatrice, que l'écriture devait être quelque chose qui répondait à ces deux objectifs, de créer du sens, de créer du lien, en plus, l'écriture permet de faire mémoire, d'ouvrir l'avenir. Et donc, je suis parti sur un projet avec ces quatre objectifs: créer du lien, faire mémoire, donner sens, ouvrir l'avenir.
C'est une très belle histoire, l'histoire de votre livre. Et vous continuez d'explorer ce domaine ?
Alors, je continue à interviewer des gens qui me demandent d'écrire leur vie ou à qui je propose d'écrire leur vie. J'ai interviewé dernièrement Simone de Bollardière, la femme du général. J'ai interviewé mon beau-père qui a plus de 90 ans et je trouvais qu'il était temps de l'interviewer. Mais pour l'instant, l'association que nous avons créée, l'association Écrire ma vie, a été dissoute l'an dernier parce que l'objectif de formation d'animateur d'atelier d'écriture de vie était trop difficile à remplir. Nous avons beaucoup galéré avec ma collaboratrice, Françoise Sauzet, qui est décédée d'un cancer, parce que tous les organismes que nous rencontrions nous disaient « Oui, former des animateurs d'ateliers d'écriture de vie, c'est très intéressant, ça nous irait bien, c'est un besoin que nous aurions, mais nous avons d'autres priorités, nos plans de formation sont bouclés, nos objectifs... les objectifs définis par les pouvoirs publics, c'est la qualité des soins, etc. Et chaque fois, on me disait, non, c'est intéressant, mais on ne donnera pas suite pour l'immédiat. Et donc, j'ai décidé, étant moi-même en retraite, d'arrêter le projet. Mais le livre que j'ai écrit à cette occasion... se vend bien et donc j'en suis très heureux.
Vous avez, je crois, Étienne, vous m'avez indiqué ça hors antenne, sur un nouveau site établi une entité, en l'occurrence, dont j'aimerais que vous nous parliez, chercheur en humanité.
Oui, alors, je suis aussi président de l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits. Et j'ai mis en ligne sur le site IRN. N comme Noémie, IRNC.org, une soixantaine de diaporamas de vulgarisation sur la résolution non violente des conflits et plus largement sur le changement sociétal. Et j'ai mis notamment en ligne plusieurs diaporamas, 5 séries de diaporamas, qui s'appelle chercheur d'humanité. Alors il y en a dans le registre de la résolution des conflits, des alternatives économiques, des alternatives écologiques, du changement sociétal au sens large, donc là-dedans il y a l'éducation, la politique, la santé, etc., et la quête de sens. Et je me suis dit, finalement, on pourrait imaginer aussi de faire des ateliers d'écriture après avoir fait une recherche sur des chercheurs d'humanité, partager ensemble sur le thème « Les chercheurs d'humanité et moi ». En quoi ils m'interpellent ? Qu'est-ce qu'ils disent de moi ? À quoi ils m'invitent ? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble de tout ce qu'on partage ?
Très beau projet. Dernière question, Étienne. Quel est le conseil que vous donnez à celui et à celle qui s'engage dans cette aventure d'écrire à propos de sa vie ?
Moi, ce que je conseillerais, c'est d'y aller progressivement, mais avec régularité et avec volonté. Quand on a décidé d'écrire sa vie, je crois que c'est un objectif très important. Il faut s'y tenir, donc moi je conseillerais, alors pour ceux qui veulent utiliser mon livre, c'est de se fixer, de faire par exemple un exercice par semaine au minimum. Pour d'autres ça sera peut-être un par jour, pour d'autres ça sera peut-être un tous les 15 jours, je sais pas, mais je pense que c'est important de se donner à soi-même un objectif de régularité. Pour des gens qui ont envie d'avancer dans l'écriture de leur vie, Je crois que c'est important de ne pas rester seul aussi.
Merci beaucoup, Étienne. Je rappelle, Écrire ma vie, sous-titre 80 exercices à faire chez soi ou en atelier d'écriture. C'est la deuxième édition. C'est un ouvrage remarquable publié par la Chronique sociale de Lyon. Merci beaucoup, Étienne, et à très bientôt pour peut-être parler des chercheurs en humanité.
Merci, Michel.
Le deuxième entretien, c'est avec Michel Barlot. Il continue d'animer des sessions avec des personnes d'âge et de milieux socioculturels très variés. L'un de ses ouvrages, Écrire l'histoire de sa vie, complète remarquablement celui d'Étienne Godineau. Michel Barlot, dans son introduction, rappelle qu'il y a mille et une raisons au moins d'écrire de façon variée l'histoire de sa vie, et il propose un chemin qui complète fort bien, encore une fois, celui qu'Étienne montre dans le livre que nous venons de voir. Voici l'entretien que nous avons réalisé avec Michel jeudi dernier. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Alors écoutez, votre livre est un guide précieux pour celui ou celle qui s'autorise à écrire l'histoire de sa vie. Votre livre révèle une longue écoute des pratiques. Quelle a été l'origine de cet ouvrage ?
Bien, il a d'abord eu une origine personnelle. C'est-à-dire que de mon côté, en particulier pour conjurer l'oubli après le décès de cette personne que j'aimais beaucoup, j'ai essayé de mettre par écrit mes souvenirs. Par ailleurs, en tant qu'enseignant, il m'est arrivé d'écrire ce qui m'arrivait pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce que j'avais vécu. Et donc à partir de là, j'ai eu l'idée d'animer des sessions et des ateliers. Et le livre est donc issu très directement de ce travail sur le terrain par une méthode d'essai et d'erreur, c'est-à-dire que j'ai été amené à modifier certains éléments à partir des réactions des stagiaires.
Tout à fait. Alors moi j'ai trouvé ce livre tout à fait remarquable, je comprends mieux maintenant, étant donné à la fois votre vécu et d'autre part votre rôle d'enseignant, et vous notez qu'il y a bien des raisons d'écrire, mille et une raisons d'écrire et plus, mais selon vous, quelles en sont les principales ?
Alors il y a mes propres raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire garder mémoire de ce que l'on a vécu, et en particulier des personnes que l'on a rencontrées, y voir plus clair aussi dans ce que l'on a vécu, hein, puisque le récit amène forcément une sorte d'analyse. Hein, il faut un verbe, un sujet, un complément, alors quel est le sujet ? Qui est-ce qui parle ? De quel point de vue je parle ? Etc. Et puis donc, en écoutant mes stagiaires, il y a d'autres raisons qui sont apparues. D'abord, l'idée de transmettre une sorte de relais. Et beaucoup de ces personnes écrivaient, c'est curieux, d'ailleurs non pas pour leurs enfants, mais très souvent pour leurs petits-enfants. Et puis pour d'autres, il s'agissait aussi de faire une lecture de sens de ce qu'ils avaient vécu, hein, d'ordre philosophique, religieux, politique. Plus rarement, il s'agissait de témoigner, par exemple sur le plan professionnel, il y a beaucoup d'enseignants qui éprouvaient le besoin de dire ce qu'avait été leur enseignement autrefois et de le transmettre aux générations à venir.
Tout à fait. Quelle est la recommandation principale que vous feriez à celui ou à celle qui envisage d'écrire sur l'histoire de sa vie ?
Je leur dirais surtout de ne pas se décourager, d'écrire sans se laisser bloquer. Par exemple, par un souci de perfection littéraire, il y a des gens qui ont tellement envie de bien écrire qu'ils n'écrivent plus du tout ou qui sont bloqués très vite. Plus souvent encore, éviter de se laisser bloquer par des souvenirs traumatisants. Beaucoup de gens arrivent à un moment difficile de leur histoire et du coup, ils s'arrêtent d'écrire parce qu'ils n'arrivent pas à franchir l'obstacle. Donc, je leur conseillerais de continuer à écrire malgré tout, de contourner l'obstacle, soit en racontant seulement une période pas trop traumatisante de leur vie ou des périodes pas trop traumatisantes de leur vie, soit faire une écriture thématique. Je vais raconter ma vie professionnelle, je vais raconter mes voyages, etc. Je crois que c'est surtout ça que je... Et effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui se décourageaient en cours de route. Donc je crois qu'il faut continuer à écrire, un peu comme les surréalistes qui faisaient de l'écriture automatique, qui continuaient à écrire même s'ils n'avaient rien à écrire, pour forcer, disons, la petite source intérieure à couler.
Merci beaucoup, Michel. Alors, Écrire l'histoire de sa vie, Michel Barlot, Chronique sociale de Lyon, un ouvrage qui est à conseiller à tous, pour vous donner le désir d'écrire, et Michel vous le rappelle, tenez bon, ayez courage, soyez tenace, et vous y arriverez. Merci Michel.
Bonsoir.
Après ces deux entretiens, dans lesquels on notera que souvent il y a un événement qui suscite l'écriture et que cette mise en œuvre de l'écriture est finalement une découverte de soi et une manière de s'autoriser à être plus. Voici deux témoignages reçus de vous, auditeurs. Nous en avons choisi deux. En voici le premier. De Daniel, c'est une femme. Ma vocation, mon destin, aucun doute, c'est le dessin, c'est la peinture. Pourtant, l'écriture m'a toujours accompagné. Timide, ne pouvant m'exprimer en paroles, et cependant, j'écris. Premier livre à 7 ans, prix littéraire à 15 ans, des poèmes emplissent des cahiers secrets, mes vocations beaux-arts. Avec la rencontre de mon mari et l'envol avec lui pour 26 années de vie nomade, l'écriture s'imposa comme seul moyen de communiquer avec la famille si lointaine. Des lettres offrant par centaines, de pays en pays, une version bien édulcorée de ce que nous vivions, afin de ne pas inquiéter. Projet, un jour, grâce à ces textes canevas, je reconstruirai la vérité des dangers affrontés, des situations vécues, des sentiments secrètement éprouvés. Mais seul alors paraissait urgent le maintien de la voie de la peinture, perturbée par 26 déménagements et les rôles si importants d'épouse et de mère. Au jour du retour, je demandais les lettres. Je cherchais mes lettres. Elles étaient perdues dans un déménagement. Choc violent. Seule l'écriture répondait à l'urgence. Alors chaque nuit, j'ai écrit, j'ai recherché ces traces qui étaient en moi. Et j'essayais, contre vent et marée, chaque jour, de trouver le temps nécessaire pour récupérer ces débris de souvenirs de tous ces voyages. Étonnement, enthousiasme, joie et parfois désespoir de d'années vécues loin de mon pays d'origine, la France, et de cette zone si magnifique, le pays de grâce. Je me trouvais explorant l'Iran et bien d'autres pays lorsqu'un nouveau déménagement de Paris, à Châteauneuf-de-Grasse, où je réside, m'impose irrésistiblement un nouveau projet d'écriture. C'est la rencontre avec Pierre le Migrant qui dévia mon stylo. Il était là, au travail, autour de moi, ces paysans tant admirés dans mon enfance. Alors mon écriture se mit au service de ce qui devint une mission, les écouter, comprendre, les raconter, rendre visibles ces invisibles, leur rendre par mes textes la parole perdue depuis la fin des veillées. Cette mise en lumière réservée à ceux qui possèdent l'écriture. Je deviens alors Pierre, Olga, Tantana, Gabi, Charlot et tant d'autres, au long de pages de 10 ouvrages consacrés à retenir un siècle de leur histoire, à les honorer. Puis enfin, je revins à ma propre histoire en reprenant le chemin que j'avais pris dans le monde. Tome 1, de femme au foyer, le brouillon du tome 2, Libye et Iran, sont sortis des classeurs où ils dormaient. J'ai par ailleurs 10 contes qui sont terminés et qu'il me faut illustrer, un livre de cuisine et tant d'autres projets que je leur donne le temps désormais de concrétiser. Que ferais-je sans eux? Je crois que je peux dire ceci, je crée ou je meurs. Merci Daniel de ce très beau témoignage qui fait que vous avez été quelqu'un qui, malgré votre vocation aux Beaux-Arts, n'a cessé d'être présent à l'écriture, qui avait publié à ce jour 11 ouvrages pour 30 000 exemplaires dans le pays de grâce, modestement, comme quoi des miracles sont possibles. Nous allons, dans la deuxième partie, commencer par le deuxième témoignage d'une autre personne que nous avons choisi pour ce soir. Et en attendant que se termine cette première partie d'émission, je rappelle à tous nos auditeurs que le dimanche 8 juin, à Montsartou, l'association Art, Science et Pensée organise une table ronde à partir de 16h à la salle Léo Lagrange à côté du cinéma, dont le titre est, ô combien proche de cette émission, Histoire de vie personnelle et choix théoriques. Il y aura 5 intervenants, dont Boris Cyrulnik, qui est connu de tous nos auditeurs et que nous avons déjà interrogé plusieurs fois dans cette émission. Alors, ne quittez pas l'antenne, on se retrouve dans quelques instants. Vie et écriture, tel est le thème de ce soir. Voici donc le deuxième texte, un extrait du deuxième texte parmi tous ceux que nous avons reçus. Qui n'a pas eu dans le courant de sa vie envie d'écrire, par amour de l'écrit, de la poésie, ou après avoir eu une expérience qui nous a particulièrement touchés, ou simplement par le contact de la nature, qui a éveillé si fabuleusement nos sens, qui nous rend lyrique, euphorique, qui nous donne envie de clamer sa joie de vivre et aussi par pudeur, au lieu de le dire, de l'écrire. Aimer la solitude, sa solitude, c'est aussi faire cela, écrire, surtout sans chercher ses mots. Danser, dessiner, peindre, ce sont les mêmes choses. Une autre façon d'écrire, de raconter, de se raconter, mais toujours écrire. Merci à cet auditeur pour ce bref extrait d'un texte beaucoup plus long qu'il nous a envoyé. Nous allons aborder maintenant la troisième étape. La troisième étape, c'est celle d'exploration. Nous allons explorer, nous allons faire une exploration de citations variées sur ce thème « vie et écriture ». Ces citations vont être accompagnées comme musique de fond par la Symphonie du Nouveau Monde et je remercie Yana de m'accompagner dans la lecture de ces citations et je lui donne d'abord la parole.
Il faut vivre pour écrire et non écrire pour vivre. Jules Renard.
Écrire, c'est lire en soi pour écrire en l'autre. Robert Sabatier.
Vous pouvez devenir écrivain, mais il faut être auteur. Junger.
Ce qu'il faut à l'écrivain, comme au peintre, au musicien, c'est l'infini de la vie et de l'errance.
Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Marguerite Duras.
Le récit n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Jean Ricordon.
L'écriture, cet éternel dilemme entre la vie et la mort, cette ambiguïté qui rejoint les gens dans leur instabilité la plus secrète.
L'homme construit des maisons parce qu'il est vivant, mais il écrit des livres parce qu'il se sait mortel. Daniel Pennac.
Écrire est la seule vérification que j'ai de moi-même. Françoise Sagan.
Écrire, c'est une respiration. Julien Green.
Il faut écrire pour soi. C'est ainsi que l'on peut arriver aux autres. Eugène Ionesco.
Si j'avais une définition de ce que c'est l'écriture, ça serait celle-ci. Découvrir en écrivant ce qu'il est impossible de découvrir par tout autre moyen, paroles, spectacles, etc. Découvrir quelque chose qui n'est pas là avant l'écriture. Annie Ernaux.
Écrire, c'est être attentif à la manière dont on vit. Peter Handke.
En écrivant, se délivrer de ses entraves et par là aider autrui à s'en délivrer. Charles Juillet.
L'homme est essentiellement une histoire. Et le sens même de l'homme est le sens que petit à petit, son histoire lui découvre à mesure qu'il vieillit davantage. Marcel Legault.
Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Socrate.
Quand on fait le récit de sa vie, on est à la fois auteur, narrateur et acteur. Paul Ricoeur.
Avant de terminer par une phrase de Jean Cocteau, explorons le très beau livre de Louis Lavelle, La parole et l'écriture, qui a été édité en 1942 et réédité en 2005. Voici en particulier quelques phrases de Louis Lavelle. Écrire, c'est apprendre à se trouver. L'écriture est une affaire avec soi avant de l'être avec le lecteur. Celui qui écrit, c'est à lui-même qu'il dit ses propres secrets. Le propre de l'écriture, c'est de capter l'éternel dans le temporel, c'est-à-dire de nous obliger à nous porter nous-mêmes dans le temps et au-delà le temps.
Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau.
Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau. Voilà pour ce qui est des citations que vous-même, vous pouvez continuer de découvrir, qui dans un livre, qui sur Internet ou ailleurs. Nous allons, dans la dernière partie de cette émission, revenir sur la journée du livre gourmand à Brignoles, journée qui a eu lieu le samedi 17 mai et dont nous n'avons pas eu le temps de parler dans notre dernière émission. Cette journée a débuté avec un goût amer et s'est traduite à la fin par une remarquable réussite, à ce point que la télévision tunisienne a présenté Brignoles comme ville d'ouverture. Beau travail d'association et de citoyens au-delà de tous les clivages politiques. Alors, l'invité d'honneur de ce livre gourmand à Brignoles cette année, c'était la Tunisie. Le goût amer, de quoi s'agit-il? Les affiches en calligraphie arabe, de très belles affiches sur fond rouge, sont retirées la veille et remplacées par des affiches succinctes où les références à la Tunisie et à la langue arabe sont supprimées. La musique tunisienne est interdite. Le goût plein de saveurs, c'est une animation de qualité, un public très nombreux, effectivement de la musique tunisienne et un très bel hommage aux auteurs invités. Alors pour nous en parler, Bernard Van Mal, qui est artiste, poète et qui a été le directeur artistique de cette journée, écoutons-le. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Michel.
Alors écoutez, votre festival a été une réussite assez exceptionnelle. Comment expliquez-vous cette réussite?
Oui, c'est une réussite même presque paradoxale, puisque malheureusement, pour les personnes qui organisent des journées sur la poésie, on sait bien que le public est souvent confidentiel. Et là, on a eu un public de tous ordres et de tous âges, qui était dû donc à la volonté de la nouvelle municipalité de Brignoles de bloquer la manifestation, voire même de l'annuler.
Et malgré cela, les associations, les personnes se sont regroupées et ont réussi ce tour de force à en faire une véritable réussite.
Oui, donc en fait, si vous voulez, cette journée des livres gourmands qui était cette année consacrée à la poésie et à la cuisine tunisienne n'a pas été du goût des nouveaux élus de Brignoles et donc a fait l'objet d'une censure tout à fait étonnante. Mais comme la manifestation a été bien engagée officiellement, elle a dû être maintenue et cette censure qui était à la fois sur les affiches mais également sur la musique n'a pas obtenu l'effet souhaité et nous avons eu beaucoup de monde et la journée a été très festive et finalement nous avons eu le plaisir de voir Madame le maire et plusieurs élus venir quand même à la manifestation et in fine la trouver très réussie.
Alors écoutez Bernard, vous êtes en plus directeur artistique de cette organisation, poète et soucieux du politique au sens le plus noble du terme. Quelle lecture vous faites à travers ce festival de l'acte que vous avez posé?
Je pense que d'autant plus avec donc les résultats très tout récents des élections européennes, donc on peut non seulement résister, mais surtout on peut incarner des valeurs positives. Voilà, mais simplement il faut s'en donner la peine et il faut également, je pense que ce soit que ça donne envie. Voilà. Je pense que la même question se pose pour la lutte contre le racisme. Peut-être plutôt que de dénoncer, même s'il est très important de dénoncer, mais plutôt de passer son temps à montrer du doigt des personnes racistes. Et je trouve, pour ma part, je préfère développer des actions en faveur de la fraternité. Et donc, une des plus belles actions que j'ai vues qui correspond à l'esprit de cette journée, c'est de réunir les gens autour d'une table, de faire découvrir une culture, en l'occurrence maghrébine, par des cuisiniers, et d'en pro- profiter pour faire découvrir une danse traditionnelle, des poèmes de Tahar Bekri, des calligraphies de Abdallah Akkar, voilà. Donc, faire aimer la culture par le plaisir. je pense que c'est une des meilleures manières, non pas de combattre des idées xénophobes, mais de vivre vraiment des valeurs de paix et de fraternité.
Voilà, finalement, entre autres, la cuisine a beaucoup servi à relier les gens, à établir des liens entre eux pour ensuite aborder la poésie, la culture, etc. C'est ça ?
Oui, enfin, c'est... Je pense que la cuisine méditerranéenne en particulier, c'est un acte culturel en soi. Et donc là j'ai vu par exemple le long de cette journée c'était le collectif Liberté de Nice qui était venu pour nous proposer un couscous à la mode tunisienne, et donc j'ai vu des jeunes d'ascendants tunisiens ou des dire ah mais c'est le vrai couscous qu'on fait chez moi. Et moi qui n'y connaissais rien, j'ai découvert ce que c'était, donc un couscous très épicé notamment, voilà. Donc c'est déjà de la culture. Et puis tout au long de la journée, des poètes varois ont lu des textes de poètes tunisiens ou des textes de leur propre cru, notamment des recettes de cuisine. Et on peut lire une recette de cuisine avec des mots choisis qui font rêver, voyez. Donc pour moi, la poésie est un des plaisirs des sens, un plaisir très spirituel, très aérien, mais un plaisir également. Et je suis tout à fait opposé à la poésie et même à l'art intellectuel qui malheureusement domine encore aujourd'hui et surtout depuis quelques décennies. Moi, j'aime l'art incarné, l'art qui vit, qui fait vibrer, et que ce soit de la musique, que ce soit des arts plastiques, voilà. Et un art qui est nécessaire d'expliquer m'ennuie. Vous voyez, j'ai besoin d'avoir un art que je peux recevoir, voilà, sans avoir 50 filtres et commentaires.
En tout cas, bravo pour cette réussite. Et alors, en 2015, Bernard, la date et le thème, c'est déjà prévu ?
Écoutez, là, je pense que ça reste problématique quand même. Je ne suis pas certain que la mairie souhaite renouveler cette opération, mais... Pour ma part, je laisse la porte ouverte, et notamment c'est le libraire, Monsieur Desprez, du Bateau Blanc de Brignoles, qui a à cœur que ça continue. C'est lui qui est à l'origine de cette manifestation, donc je lui laisse la responsabilité de reproposer un nouveau pays méditerranéen à la nouvelle municipalité.
Merci beaucoup, Bernard, de ce témoignage et tous nos encouragements pour l'an prochain, et à très bientôt.
Oui, merci beaucoup, Michel. Au revoir.
Au revoir.
ولا نعيش ادرع اللي متوجع اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع.
Agora Côte d'Azur, dans cette émission Paroles d'écriture, voulait aussi rendre hommage à cette journée remarquable. Varmatin avait titré un de ses articles « Une journée du livre gourmand au goût amer, mais qui s'est traduit par un goût de saveur de Provence et de Méditerranée ». La FR3 en a parlé, et la télévision tunisienne, je vous le rappelle, a parlé de Brignoles comme ville d'ouverture. Agora Radio vous livre ces données. parce que Agora Côte d'Azur veut être présent dans toute la zone qui le concerne, le Var, les 06, mais aussi l'ensemble de la région PACA de plus en plus. Voilà, cet hommage au livre gourmand, en espérant que l'an prochain, il aura lieu. Je vous rappelle, dans cette dernière séquence d'émission, que notre dernière rencontre se fera en juin. Ça sera notre dernière émission à la fin juin. Et nous irons visiter, ça et là, des expériences de la région que nous avons appelées Renaissance sur le terrain. Le vendredi 27 juin sera donc notre dernière émission. Et là, nous allons sur le terrain, nous allons recueillir des éléments, comme nous l'avons déjà fait, et sur le festival de poésie à Caen-la-Source, qui a été remarquablement fait, la soupe olive, dont nous avons eu déjà l'occasion de parler, le festival du Verdon, qui se déroule en ce moment, le 30, le 31 mai et le 1er juin, à Aups. Aups est un village de caractère tout à fait remarquable dans la Dracénie, c'est-à-dire autour de Draguignan. Et dans ce festival du livre du Verdon, les éditions Parole, dont nous avons parlé plusieurs fois, vont fêter leurs 10 ans d'existence déjà. 10 ans d'existence. Et à ce titre, vont créer un mur du livre. Alors, si vous avez le temps, demain samedi ou dimanche, je vous invite à aller à Aups, ce village de caractère. Vous y découvrirez beaucoup d'auteurs et vous découvrirez une ambiance tout à fait exceptionnelle qui contribue bien à ces renaissances sur le terrain dont nous ne cessons de parler dans cette émission. Et puis, je vous le redis, le 8 juin, c'est-à-dire dans peu de temps, dans une semaine, à 16h à Montsartou, une conférence débat à 16h, donc salle Léo Lagrange à Montsartou, histoire de vie personnelle et choix théoriques, avec 5 intervenants, dont celui qui est probablement le plus connu, Boris Cyrulnik, qui est un fidèle intervenant à Montsartou grâce à Paul Charby, son président, et qui continue d'animer l'association Art, Sciences et Pensée avec beaucoup de dynamisme. Et je vous rappelle au passage que le grand colloque de l'année, en septembre 2014, aura pour thème cette année « Art, complexité et cerveau ». Il aura lieu les 11, 12, 13 et 14 septembre à Montsartou, mais cette fois au château de Montsartou. Voilà, nous allons terminer cette émission tout doucement en demandant à Anna, qui est présente dans le studio, de nous redire certaines de ses citations, puisque des auteurs viennent de nous signifier par SMS qu'ils auraient voulu les réécouter. Alors, vous allez en réécouter certaines, mais la note de synthèse de cette émission regroupera toutes ces citations. Et en plus, encore une fois, nous avons sélectionné pour vous 10 références tout à fait remarquables de livres qui vont vous surprendre et vous aider dans cette découverte vie et écriture.
Écrire, c'est être attentif à la manière dont on vit. Peter Handke. L'homme est essentiellement une histoire. Et le sens même de l'homme, le sens que petit à petit, son histoire lui découvre à mesure qu'il vieillit davantage. Marcel Legault. Quand on fait le récit de sa vie, on est à la fois auteur, narrateur et acteur. Paul Ricoeur. Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau.
Chers auditeurs, bonsoir, belle soirée, bonne fin de week-end